J'avoue, je n'aime pas trop les citations dans les prédications et dans les discours en général, sauf nécessité technique de compréhension, évidemment. On dirait, enfin, selon moi, que le locuteur tente de prendre la fuite au milieu de son propre discours. C'est pas moi qui parle. Et qu'il refuse de nous parler de lui-même, de la part de lui-même, de donner de lui-même, de produire son propre miel et de le partager vraiment. Et aujourd'hui, puisque j'en ai déjà commis une de Derrida sur le pardon, et pour poursuivre ma cavale, je vais en commettre une autre. Un exergue de cette prédication. Mais je précise, les deux ouvrages desquels elles ont été tirées me sont littéralement tombés dessus, au sens propre, au travers d'une velléité de rangement. Et c'est vrai, miracle dans le quotidien. Voici la seconde, qui, elle, ne me quitte plus et, j'espère, ne me quittera jamais. Marina Tsvetaneya, russe, poète, en est l'auteur. Chaque chose resplendit à son heure, et cette heure est celle où des yeux véritables la regardent. Je vous laisse méditer quelques secondes. Et aussi peut-être sur pourquoi j'ai choisi cette phrase en début de prédication dans ce culte inaugural d'une matinée particulière. Allons sur le texte maintenant qui a été lu tout à l'heure. Vous avez entendu ce beau texte du livre des Proverbes où cette femme, moi la sagesse, se décrit d'une façon énergique. Vous avez entendu et raconte qu'elle est là depuis avant la fondation du monde. Quand Dieu créé, j'étais là, dit-elle, répète-t-elle. J'étais là comme un maître d'œuvre, ajoute-t-elle. Ce qui sous-entend, et même dans la traduction plus courante de ce terme, qui est architecte, ou contremaître, ou personne habile, sous-entend qu'elle est la responsable des travaux du maître d'ouvrage, son commanditaire, et qu'elle est comptable de la bonne réalisation générale pour qu'on ne se retrouve pas avec des malfaçons, des fissures et des fuites, et pour que tout soit livré dans les délais. Par ailleurs, on peut entendre que le délai, c'est 6 jours, ce qui est peu, finalement. Cette femme dit aussi qu'elle s'amuse, qu'elle joue et qu'elle prend du plaisir, entre autres avec les humains. Mais nous nous apercevons qu'elle n'est pas du genre à plaisanter jusqu'au bout quand elle conclut par ce fabuleux et catégorique « Tous mes ennemis aiment la mort ». Qui parmi nous n'aimerait pas avoir ce slogan définitif en bandoulière ? Souhaiter la mort de ses ennemis, c'est banal. Tenter de les aimer, c'est chrétien. Mais penser que nos ennemis aiment la mort, là, c'est fort. Moi, la sagesse, je suis là depuis presque toujours, et parfois, par exemple, dans une exégèse un peu subtile du processus narratif d'un certain passage de l'évangile de Luc, au chapitre 7, on arriverait à conclure que Jean le Baptiste, cette figure qui a précédé Jésus, et même Jésus, sont des incarnations de cette femme primordiale, compagne de Dieu depuis la nuit avant le temps. On arrive aussi à penser que cette femme primordiale a doucement été remplacée dans le champ divin biblique, hein, pluriel, complexe en fait, et aussi évidemment dans la norme religieuse, par une figure officiellement masculine, à savoir celle du Fils. Mais pourquoi ai-je aujourd'hui choisi ce texte où c'est la sagesse qui parle ? Dans une matinée où il est question de pratique artistique, où des acteurs de cette pratique vont en dire quelque chose et nous aider à affiner notre compréhension de tout ça, dans cette matinée, à la frontière des engagements respectifs des uns et des autres, quel rapport ? Quand on entend le mot « sagesse » ici, au pire c'est vague, et un peu, il faut l'avouer, fourre-tout. Sagesse, méditation... Et au mieux, quand même, cela évoque une forme de pensée, évidemment, ça convoque la philosophie. Oui, il y a un rapport, évidemment, mais c'est vague. Mais pas si vague que ça, en fait. Le mot traduit par sagesse en hébreu n'a pas grand-chose à voir avec la théorie et les idées. Le mot hébreu, chokma, désigne plus l'habileté, la technique, ou même parfois la ruse, que la pensée théorique. Dans notre texte du jour, Le fait que cette femme se désigne un architecte est tout à fait cohérent. Plus qu'un savoir, la sagesse en hébreu est un savoir-faire. Bref, ne tournons plus autour du pot, en fait. Excusez-moi. Celle qui était avec le dieu commanditaire ou créateur était une femme de l'art. L'art, évidemment, dans le sens avant qu'il ne s'enflamme, dont je vous laisse responsable des définitions, mais l'art, issu du latin artis, traduisant le mot grec techné, qui désigne la compétence technique. Voilà donc finalement pourquoi, si modestement et avec notre beau petit jardin bien humide, nos 500 mètres carrés de salle ici, nos voûtes et nos mosaïques au temple, nous avons mis l'art au cœur de notre projet. Pourquoi ? Parce que ce projet était là, et là c'est vraiment très immodeste, ce projet était là depuis avant la fondation du monde. Me revient encore une citation, mais cette fois-ci j'ai le droit parce que c'est biblique. Exode 35, dans le désert après la libération de l'esclavage, il faut s'organiser. Verset 25, « Toutes les femmes qui avaient de la sagesse, en fait, c'est traduit par « habileté », toutes les femmes qui avaient de l'habileté, mais c'est le même terme, plus ou moins, filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté, de la sagesse, filèrent du poil de chèvre. Et tout ce qui suit dans ce récit est un festival d'appel au savoir-faire, à l'art du peuple. Bien sûr, j'ai conscience que le texte biblique sur votre feuille de culte qui a été lu n'est pas un document factuel qui raconte une histoire vraie, qui n'est pas une source sûre. Mais par ailleurs, l'histoire d'un Dieu seul, voire célibataire, créant tout seul, face au néant, est-elle davantage factuelle ? Ce que je vois, c'est que nous avons un texte composé avec art. Et par ricochet, je me rends compte, et où m'avoue que la Bible, c'est de la littérature, que les Écritures est l'expression officielle pour désigner cette Bible. Je me rends compte que les notions d'inspiration, de dévoilement du réel sont partout dans ces Écritures composées par des écrivains inspirés. Et je continue, évidemment, comme nous tous, à ne pas arriver à mesurer la profusion d'œuvres qu'on appelle artistiques, que ces écritures ont aspiré à leur tour. Jusqu'à ce Dieu-là qui apparaît ailleurs dans ces écritures comme un créateur, un artisan, un potier, j'en passe. Pourquoi pas un artiste ? Jusqu'à l'art de la prédication qui consiste à tisser des fils de sens. Et jusqu'à Myriam, que je remercie beaucoup parce que ça devait être très stressant. Jusqu'à Myriam qui accompagne nos chants et nos cultes avec sa sagesse, c'est dans le contexte. Son habileté, son inspiration et sa technique. Et comme vous tous ce matin, finalement, avec vos sagesses et vos habiletés, la définition propre, sèche, radicale de l'Église en général, c'est le service de la parole et le service auprès des plus démunis, comme dit le psaume 72. Les deux sont intimement liés pour l'éternité, sinon quoi ? Sinon la parole ne ferait rien et les actes ne diraient rien. Mais déjà, ces deux services nécessitent de la sagesse, c'est-à-dire de la technique, de l'habileté, de l'art, du savoir-faire et pourquoi pas de la ruse, quand il s'agit par exemple de remuer des administrations pour que des familles de réfugiés ne dorment plus dehors, ou quand il s'agit de convaincre un conseil presbytéral de tel ou tel projet. Mais cette Église s'autorise en plus à inventer des lieux et des moments frontaliers, où l'émotion artistique et l'émotion spirituelle peuvent se côtoyer, peuvent dialoguer, comme disait Nicolas tout à l'heure, se rencontrer, y compris de façon très éphémère, comme des assemblées cultuelles, sans aucune obligation réciproque. C'est un projet singulier, un service particulier, difficilement compréhensible, même pas très vendeur, mais qui a vocation à faire comprendre que malgré nos maisons portatives que nous avons chacun sur notre dos, respectifs, nous marchons sur une même route et nous avons besoin des uns des autres pour tenter de percevoir quelque chose comme un au-delà de nos perceptions primaires, nos jugements premiers, et pour partager nos sagesses respectives. Chaque chose resplendit à son heure, et cette heure est celle où des yeux véritables la regardent. Amen. Thank you.